Il est 19h sur France Inter. Et pour l'heure, c'est le journal de Pierre Veil. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. La réouverture des parcs et jardins, retrouvailles avec la nature pour cause de déconfinement ce début de week-end de la Pentecôte. On écoutera des Parisiens heureux dans les allées du parc Montsouris. Les restaurants et bars, cafés rouvriront mardi, mais selon le chef étoilé Philippe Etchebest, 40% des restaurants en difficulté financière ne pourront pas accueillir des clients. Un rassemblement religieux à Mulhouse, accusé d'avoir été à l'origine de la propagation de l'épidémie de Covid-19 en février, en partie mis hors de cause par l'enquête d'une équipe d'épidémiologistes. Des milliers de personnes dans les rues de Maubeuge pour refuser une possible fermeture de l'usine Renault prévue dans le cadre d'un vaste plan d'économie pour redresser les finances du constructeur. Aux États-Unis, manifestations de colère et violence dans de nombreuses villes après la mort de George Floyd, cet homme noir tué par un policier blanc à Minneapolis. La maire d'Atlanta, la ville natale de Martin Luther King, lance un appel au calme. Et puis, comme tous les samedis, ma vie connectée avec Christine Siméone. Ce soir, peut-on désubériser la société ?
France Inter.
Lecture au soleil, séance de yoga, jeu avec les enfants, pique-nique en famille, bronzette sur les pelouses. Les Parisiens ont repris possession des parcs et jardins de la capitale aujourd'hui, deux jours après le feu vert donné à leur réouverture par le Premier ministre Édouard Philippe dans cette deuxième phase du déconfinement. Fini de tourner autour des grilles fermées des parcs, loin des arbres et des fleurs. Un bol de nature en ce début du week-end de Pentecôte, souvent avec un masque. L'épidémie est toujours là. Des Parisiens heureux dans le parc Montsouris. Reportage Victoria Coussa.
Après plusieurs mois de balade sur le trottoir,
mais il faut pas la réveiller.
Selena, 6 ans, et sa petite sœur Mila s'émerveillent le nez dans les rosiers.
On revit en fait, hein les filles, vous êtes contentes hein.
Leur mère, Marie.
On attendait que ça, on regardait les infos pour savoir si on allait pouvoir venir au parc avant la semaine prochaine. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça change tout. On est asphyxié, hein, sinon on se récupère la pollution, les voitures, donc il fallait que les parcs ouvrent.
Le bruit métallique des grilles qui s'ouvrent au petit matin a beaucoup manqué à Françoise et Monique, deux retraitées. Elles habitent autour de Montsouris.
À la première heure, oui. Dès qu'on a été prêtes, on est venu.
C'était très frustrant d'être obligé de faire que le tour du parc et de ne pas pouvoir entrer.
On trouvait aberrant qu'ils n'ouvrent pas les parcs. Les gens étaient dans la rue tous entassés et on est mieux dans le parc.
Mais elles ne sont que de passage pour éviter la foule.
Il ne faut pas stagner, sans doute, mais au moins en profiter.
Car au fil des heures, les promeneurs s'installent les uns après les autres sur les pelouses, d'où cette recommandation de la mairie de Paris de porter un masque malgré la chaleur.
Voilà, récit de Victoria Coussa dans les allées du parc Montsouris. Si les parcs et jardins rouvrent en France après deux mois de fermeture, une telle fermeture n'a jamais eu lieu en Allemagne. Nos voisins ont fait le choix inverse, celui de laisser les espaces verts libres d'accès pendant le confinement. À Berlin, Ludovic Piétenu.
4 millions d'habitants, plus peuplée mais moins dense que Paris. La capitale allemande est une ville aussi plus verte. Julie, cette Française installée ici depuis 4 ans, en a profité.
J'ai fait beaucoup de marches seule mais aussi avec d'autres gens. Se balader dans les parcs, c'était très agréable. J'avais vraiment l'impression qu'on avait ici une sorte d'équilibre. On faisait attention, on n'était pas dans la peur.
Et grâce à ces espaces verts et tout ce qu'ils offrent...
J'ai trouvé une nouvelle passion, le ping-pong.
Pour d'autres, c'était le skateboard... Ou bien pour Ante et son jeune fils, jouer au ballon, au foot. C'était une bonne alternative aux aires de jeux pour enfants qui étaient fermées, mais heureusement, dit ce père de famille, les parcs sont restés ouverts. Pour les enfants comme pour moi, c'était super. Ces espaces grands ouverts ont symbolisé le maintien des libertés dans un pays, dans une ville, à l'histoire particulière. Rose, une franco-allemande.
Vu que Berlin est une ville qui a été vachement touchée par justement l'enfermement et les limitations, etc., que c'était un mot d'honneur pour la chancelière, c'était vraiment le point d'honneur de garder ses libertés le mieux possible.
Angela Merkel a bien prononcé ses paroles.
Lassen Sie mich versichern. Freiheit, ein schwer erkämpftes Recht waren.
Le 18 mars à la télévision, au début du confinement, dans son adresse aux Allemands qui le lui rendent bien aujourd'hui, elle n'a, après 15 ans de pouvoir, quasiment jamais été aussi populaire.
Un vrai goût de liberté retrouvé, Pierre, avec ce week-end donc la réouverture chez nous des parcs et jardins.
Oui, Claire, et mardi, ce sera au tour des bars et restaurants, mais en Ile-de-France, uniquement ceux qui ont des terrasses. Ce déconfinement des restaurants ne signifie pas la fin de la crise dans ce secteur, bien au contraire, avec de graves difficultés financières, des risques de faillite. C'est l'opinion du chef étoilé et membre du jury de l'émission Top Chef, Philippe Etchebest, après de nombreux échanges auxquels il a participé au sein des collectif Restons Ensemble et SOS Bistrot.
On sait aujourd'hui qu'il y en a énormément, déjà qui ne vont pas pouvoir ouvrir le 2 juin. En plus de ça, qui vont arriver sur des faillites alors immédiates ou à plus ou moins long terme. C'est pour ça que nous avons proposé la création par l'État d'un fonds dans lequel toutes les aides gouvernementales, les fonds européens, mais aussi les fonds privés, des assurances, il faut qu'elles participent, les banques aussi, abonderaient. Ce serait un fonds qui permettrait de distribuer 15% du chiffre d'affaires en N-1 à chaque entreprise, de la plus petite à la plus grande. Ceci afin de couvrir une partie des charges fixes, dont le loyer et toutes ces choses-là. Sur le groupe de discussion de Restons Ensemble, où il y a 22 000 personnes qui discutent, et déjà beaucoup qui ont dû malheureusement faire faillite. Je connais des cas de suicide aussi, malheureusement. Et j'ai bien peur que si on ne fait rien aujourd'hui, ça risque de s'aggraver.
Philippe Etchebest sur France Info ce matin. Pour tenter d'expliquer la soudaine force de l'épidémie de coronavirus en France, des spécialistes de la santé avaient évoqué ce rassemblement de plus de 2000 croyants dans une église évangélique à Mulhouse. C'était pendant 3 jours en février. Rémi Brancato, aujourd'hui, une enquête épidémiologique du CHU de Clermont-Ferrand disculpe en partie ce rassemblement religieux à Mulhouse. L'épidémie avait démarré dans le Haut-Rhin 3 semaines avant cette réunion évangéliste.
Près de 1500 familles, 3300 personnes ont répondu au questionnaire dans le Haut-Rhin et 90% déclarent avoir eu des symptômes du Covid-19. Entre mi-décembre et fin avril, les épidémiologistes ont ainsi pu définir quand le seuil épidémique a été franchi.
Pour nous, dans le Haut-Rhin, l'épidémie débute le 27 janvier.
Laurent Gerbeau, professeur de santé publique à Clermont-Ferrand, co-auteur de cette étude, souligne donc que le rassemblement évangélique n'arrive qu'après.
Le rassemblement a commencé le 17 février, mais la deuxième vague de l'épidémie était lancée au moment du rassemblement. Il va avoir un rôle localement d'accélérer la deuxième vague de l'épidémie. Et surtout, des gens vont repartir dans toute la France, donc il y a un rôle de dissémination. Il a un rôle, mais un rôle de type secondaire. De toute façon, à la fin du mois de février, au début du mois de mars, rassemblement ou pas, le Haut-Rhin aurait été en situation d'hyperépidémie.
Des éléments qui viennent répondre à ceux qui accusaient l'Église de la porte ouverte. Jonathan Peter Schmidt en fait partie, médecin généraliste. Il a aussi co-signé cette étude, puisqu'il a participé à la rédaction du questionnaire et à sa diffusion auprès des fidèles.
Les commentaires négatifs, j'évite d'y répondre personnellement. Maintenant, effectivement, si quelqu'un voulait discuter pour comprendre ce qui s'est passé, ce serait effectivement une étude sur laquelle on peut s'appuyer pour remettre à sa place notre rassemblement dans le déroulé de l'épidémie dans le Haut-Rhin.
Et pour les auteurs de l'étude dans le département, avec une meilleure surveillance, l'alerte épidémique du 3 mars aurait pu être lancée un mois plus tôt.
Enquête de Rémi Brancato. Les grands pays touristiques européens préparent leur saison d'été. Ainsi, l'Espagne lance un projet pilote de redémarrage du tourisme. Les Allemands, les Français et les Scandinaves pourraient être autorisés à venir en Espagne dès la deuxième quinzaine de juin, donc 15 jours avant la réouverture officielle des frontières. Pour l'instant, tous les étrangers qui arrivent en Espagne sont soumis à une quarantaine. Une levée des restrictions mi-juin qui ne concerne que les Baléares et les îles Canaries. À Madrid, Marie-Hélène Ballestero.
Pour ceux qui rêvent de vacances en Espagne, cela peut devenir réalité plus vite que prévu. Lors d'une interview accordée aujourd'hui à l'agence espagnole EFE, la ministre du Tourisme, Reyes Maroto, a annoncé que l'Espagne pourrait accueillir des touristes étrangers dès la deuxième quinzaine du mois de juin. Il s'agit d'un projet pilote de redémarrage de l'activité touristique qui pourrait être lancé dans les archipels des Baléares et des Canaries. Des corridors touristiques sécurisés qui permettraient de commencer à recevoir des touristes étrangers afin de tester tous les protocoles mis en place en matière de tourisme pendant cette période de déconfinement, et ce avant de rouvrir les frontières à partir du mois de juillet, comme l'a annoncé samedi dernier le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez. À qui s'adresse ce projet pilote? Eh bien, selon la ministre Reyes Maroto, il s'agirait de touristes allemands et scandinaves. L'AFP parle également de touristes français en citant un porte-parole du ministère espagnol du tourisme. En somme, il s'agit de ressortissants de pays ayant une situation épidémiologique meilleure ou similaire à celle de l'Espagne. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
En France, le parc Astérix ouvrira ses portes le lundi 15 juin. Les réservations seront ouvertes sur le site officiel du parc à partir du mercredi 3 juin. Pas de vente de billets à l'entrée du parc. Le port du masque sera obligatoire dans les attractions et spectacles et recommandé dans les allées. Le Futuroscope près de Poitiers ouvrira le 13 juin. D'abord les week-ends et puis chaque jour à partir du 27 juin. En dépit de l'interdiction de tout rassemblement de plus de 10 personnes pour cause d'épidémie, épidémie de Covid-19. Une manifestation pour la régularisation des sans-papiers a été organisée cet après-midi à Paris, de la place de la Madeleine vers la place de la République. Plus de 5000 manifestants, selon la préfecture de police. 92 personnes ont été interpellées.
À Minneapolis, aux États-Unis, Pierre, le policier impliqué dans la mort de George Floyd a été inculpé d'homicide involontaire.
Et il est en prison. Il a été licencié de la police ainsi que trois de ses collègues qui étaient sur les lieux du drame. Ce policier avait plaqué au sol George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans. Après son arrestation, lundi, il avait maintenu son genou sur son cou pendant de longues minutes, provoquant son décès. L'arrestation et l'inculpation de ce policier n'ont pas calmé la colère de la rue à Minneapolis. Hier soir, une quatrième nuit d'émeutes et des manifestations dans de nombreuses villes, New York, Dallas, Houston et à Washington, devant les grilles de la Maison Blanche. À Atlanta, des véhicules de police ont été brûlés. Grégory Phillips est en ligne avec nous, notre correspondant permanent aux États-Unis. Bonsoir Grégory.
Bonsoir Pierre.
Face à cette colère contre le racisme et les violences policières, la maire d'Atlanta lance un appel au calme.
Oui, il était 21h passé hier soir quand Keisha Lance Bottoms se présente devant les caméras. La maire démocrate d'Atlanta, la ville de naissance du pasteur Martin Luther King, veut dire d'abord son émotion après avoir vu les images de la mort de Floyd à Minneapolis.
Above everything else, I am a mother.
Avant tout, je suis une mère, la mère de quatre enfants noirs en Amérique. L'un d'eux a 18 ans, et quand j'ai vu la vidéo du meurtre de George Floyd, ça m'a fait mal en tant que mère de ses enfants. Puis quand j'ai entendu dire qu'il y allait avoir des manifestations violentes à Atlanta, j'ai fait ce que toute maman aurait fait. J'ai appelé mon fils. Je lui ai demandé « Où es-tu ?» Je lui ai dit « Je ne peux pas te protéger. Un jeune homme noir ne doit pas traîner dans la rue aujourd'hui. »
Mais au même moment, dans le quartier du Parc Olympique, manifestants et policiers s'affrontent violemment. La façade du siège de la chaîne CNN est dégradée et la maire lance cet appel au calme.
Ce que j'ai vu dans les rues d'Atlanta, ça n'est pas Atlanta, ce n'est pas une manifestation, ce n'est pas digne de Martin Luther King Jr. C'est le chaos. Quand vous mettez le feu à cette ville, vous mettez le feu à notre communauté. Si vous voulez que ça change en Amérique, allez vous inscrire sur les listes électorales et allez voter. C'est ça le changement dont ce pays a besoin. On vaut mieux que ça. Rentrez chez vous, rentrez chez vous.
Go home.
Puis le gouverneur républicain de la Géorgie finit par décréter l'état d'urgence et annonce le déploiement pour ce soir à Atlanta de 500 réservistes de la garde nationale.
Grégory donc appelle au calme de la maire d'Atlanta, Atlanta la ville natale de Martin Luther King. Grégory appelle au calme lancé aussi par Barack Obama avec une vidéo d'un jeune garçon noir de 12 ans qui chante un gospel, déjà près de 2 millions de vues.
Oui, ce garçon s'appelle Kidron Bryant. Il habite Jacksonville, en Floride. Il est un peu connu ici parce qu'il a participé à des concours de chant télévisés. Et mardi, au lendemain de la mort de George Floyd, il publie sur Instagram cette vidéo de moins d'une minute. C'est un gospel, effectivement, dont les paroles disent « Je suis un jeune homme noir qui fait tout son possible pour rester debout. Je veux vivre, seulement vivre. Dieu protège-moi. » Et c'est cette chanson que Barack Obama a mis en avant pour exprimer, écrit l'ancien président, la détresse de millions d'Afro-Américains aujourd'hui.
I'm a young black man, doing all that I can to stand. Oh, but when I look around and I see what's being done to my kind every day.
Voilà ce jeune homme de 12 ans qui chante ce gospel pour dire « Je veux vivre ». Vidéo que vous pouvez voir sur le site franceinter.fr. Grégory Phillips en direct de Washington. Merci Grégory. Des milliers de personnes, 8000 selon les syndicats, se sont rassemblées ce matin devant l'usine Renault de Maubeuge, MCA. Elles ont ensuite marché pour rejoindre l'hôtel de ville. Aux côtés des salariés et de leurs familles, de nombreux élus, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, le sénateur socialiste Patrick Kanner ou le député communiste Fabien Roussel. Cette usine est à l'arrêt depuis hier pour protester contre la décision de la présidence du groupe de supprimer 15 000 emplois dans le monde, dont 4 600 en France. Une partie de sa production pourrait être transféré à Douai, à 70 km, ce que refusent les 2100 salariés du site de Maubeuge. Il souligne que cela porterait un coup très dur à toute l'économie locale. Témoignage de Charles, déterminé et en colère. Il a défilé ce matin, il devait obtenir un CDI cette année après avoir été intérimaire pendant un an et demi. Il est au micro de Willy Moreau de France Le Nord.
Les premiers à manger, ce seront nous, les intérimaires, puis certains embauchés.
Et nous, ce qu'on défend aujourd'hui, c'est qu'on veut garder notre outil de travail ici. Pourquoi ? Parce que justement, la jeunesse, ceux qui n'ont pas forcément de diplôme ou ceux qui n'ont pas un niveau d'études très élevé, bah, notre entreprise, c'est la seule ici dans le coin à pouvoir nous proposer du travail et à nourrir nos familles. Je suis jeune papa. Et ça fait plaisir de voir qu'autant de gens se réunissent, parce qu'au final, c'est une belle démonstration de force. On a les élus locaux qui nous soutiennent, et ça, c'est pas mal aussi. C'est ce qu'on cherchait. On voulait se faire entendre, on a su se faire entendre. Maintenant, c'est à nous de mettre la manière pour appuyer notre demande. On se targue d'être la meilleure filiale de Renault, celle en termes de rendement, de qualité. On fait un travail énorme. On a, entre guillemets, l'élite, au final, de la construction automobile dans cette usine. Et là, ce qu'ils veulent faire, c'est démonter leur meilleur groupe pour essayer de lancer un plan économique, financier. Mais je trouve ça complètement... hallucinant. C'est comme si vous étiez de première classe et qu'au final, vous étiez le seul à redoubler.
Voilà, manifestation à Maubeuge pour dire non à la fermeture de l'usine Renault MCA. Comme tous les samedis, ma vie connectée avec Christine Siméone, livreur à domicile, voiture avec chauffeur VTC plutôt que des taxis, Airbnb, le recours aux plateformes numériques, tout cela a été plus que jamais vivace ces derniers mois. Le confinement a soit affecté ces systèmes, on pense aux 3500 salariés d'Uber licenciés, soit renforcé tous ces systèmes, mais c'est inéluctable. Ces plateformes vont marquer le monde de demain au prix d'un dumping social féroce et d'un coût environnemental certain. Bonsoir Christine.
Bonsoir.
Christine, vous avez demandé l'avis d'experts en désubérisation de la société. Comment éviter les conditions sociales déplorables des chauffeurs de VTC, par exemple, tout en rendant service aux usagers qui ont besoin de se déplacer dans les grandes villes ou dans les villages d'ailleurs ?
Si l'on se concentre sur le cas d'une entreprise comme Uber, à Londres et à Paris, ces véhicules représenteraient une demi-mégatonne de CO2, ce qui revient à ajouter 250 000 voitures particulières sur les routes de ces deux villes. Côté social, on se souvient que la Cour de cassation a début mars clairement rappelé le géant à l'ordre en disant que les contrats avec ces chauffeurs sont bien des contrats de salariés. Et Uber devra s'y plier. Si Uber s'est imposé, c'est parce que son modèle, c'est d'être le premier devant les autres et de constituer une clientèle captive et la mine d'or de data que cela représente. Alors comment faire une politique de transport en ville avec des électrons libres comme ça ? Comment instaurer des règles sociales plus vertueuses au passage ? Pour Florent Forestier, chercheur et auteur de « Désubériser, reprendre le contrôle », qui vient de sortir en librairie, il existe des solutions déjà testées aux États-Unis ou en Allemagne, et notamment celle de l'alliance entre le public et le privé.
Les grandes plateformes capitalistes, elles fonctionnent sur des modèles qui sont des modèles d'optimisation. Optimisation des courses, de la rentabilité, donc du nombre de trajets. Ce n'est pas forcément ça, du point de vue des citoyens, pas forcément ça qui est l'intérêt. Les villes n'ont pas forcément, ou les pouvoirs publics n'ont pas forcément vocation à transformer, à faire un service public de plateforme, mais elles ont vocation à soutenir, à mettre leurs pouvoirs financiers, à mettre leurs données, à mettre leurs compétences au service et en appui, soit d'entreprises coopératives ou d'entreprises privées, mais à mission, qui vont pouvoir développer des services qui soient beaucoup plus en phase avec des questions d'intérêt général.
Christine Siméon, construire des solutions basées sur les intérêts communs, c'est le moment ou jamais de s'y mettre en profitant du flottement que crée la pandémie sur l'économie de ces géants ubérisants.
Mais pour que cela marche, il y a une autre condition, nous dit Florian Forestier.
Un des enjeux, c'est l'enjeu de l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est-à-dire c'est la possibilité de passer avec ces données d'un système à l'autre. C'est-à-dire de permettre à beaucoup de petits acteurs d'accumuler les expériences, d'accumuler les données et de les partager directement. Et pour ça, il y a vraiment un travail sur ce qu'on appelle les standards du web même, c'est-à-dire vraiment le fonctionnement basique du web.
Il faut donc que les données soient accessibles et adaptées à tous les opérateurs. L'un des fondateurs du web, Tim Berners-Lee, plaide aussi pour cela en ce moment. Alors on verra s'il y a aussi un monde de demain, différent et meilleur pour le web ou pas.
Nous verrons Christine Siméon, ma vie connectée à réécouter sur franceinter.fr, les couleurs du ciel.
La météo, avec la Fondation de France, la PHP et l'Institut Pasteur, qui unissent leurs forces pour aider les soignants, les chercheurs et les personnes vulnérables. Tous unis contre le virus, sur fondationdefrance.org.
Voici Jean-Michel Golinski de Météo France.
Les conditions n'évoluent pas énormément depuis quelques jours et jusqu'à la fin du week-end, nous allons conserver du soleil et du ciel bleu sur 80% du territoire avec des débuts de journée un peu plus grisonnants dans le golfe du Lion en raison d'entrées maritimes mais rapidement dissipées et le maintien par évolution diurne du développement de cumulonimbus en montagne, nuages d'averses et d'orages par excellence. Les températures de ce dimanche matin vont évoluer entre 10 et 15 degrés. L'après-midi, les valeurs toujours un peu plus basses sur les régions les plus à l'est vont afficher 22 à 25 degrés, contre 26 à 30 comme aujourd'hui sur une large moitié ouest, voire 31 sur la Gironde. Lundi, hausse des valeurs de l'est du Rhône au quart nord-est, mettant l'ensemble du pays sur le même pied d'égalité.
Jean-Michel Golinski de Météo France, c'est la fin de ce journal. À l'instant, le bilan quotidien de l'épidémie de Covid-19 en France. 57 morts en 24 heures dans les hôpitaux en France et la baisse se poursuit en réanimation.